Bienvenue à tous aujourd'hui pour cette fête, certes profane du sanctuaire, mais toujours fête de la Vierge Marie, quoi qu'il arrive. Une semaine après avoir célébré dans la joie l'Assomption de la Vierge Marie, et puis hier, la fête de Marie-Reine, qui est la conclusion de son Assomption, vous voyez, elle passe de la terre au ciel, et au ciel, elle est accueillie par son Fils pour siéger à sa droite et donc couronnée reine des anges et reine des croyants, reine des sauvés. Eh bien aujourd'hui, dans ce sillage-là, nous demeurons dans ce parfum divin de célébration, de vénération de la Vierge Marie, qui n'est autre que l'œuvre de Dieu. Marie s'efface complètement. Elle est l'œuvre de Dieu, elle incarne pleinement, complètement le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi c'est dans la joie qu'aujourd'hui nous célébrons d'abord et avant tout la Vierge Marie. Le sanctuaire Notre-Dame du Cross a été édifié au Moyen-Âge. À la suite, c'est le plus probable, d'une prière qui a été exaucée. Une jeune maman, une bergère, faisait paître son troupeau et son enfant était mourant, était aux portes de la mort. Il ne faut pas se représenter la végétation comme elle est aujourd'hui, c'était bien plus rude. Donc elle a trouvé à l'endroit de la source, en bas, pour son troupeau, de l'ombre, l'ombre de la falaise, et puis il y avait sûrement un petit bosquet à l'époque à cet endroit-là. Mais sinon, tout était dénudé. Et à la fois des choses rudes, et en même temps, la douceur et la beauté de la création de Dieu. Or, le rude, l'aspect rude, c'était que son fils était, ou sa fille, on ne sait pas, son bébé était en train de mourir. Alors elle a prié avec ferveur la Vierge Marie. Et elle a été exaucée. Il y a deux sortes de sanctuaires. Ceux qui sont à l'initiative du ciel, ce sont les apparitions, comme à Lourdes, ou ceux qui sont à l'initiative des hommes, comme ici à Notre-Dame du Cross. Mais le résultat est le même, la fondation d'une maison dédiée à la Vierge Marie. Donc ça remonte au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, eh bien, Marie continue d'écouter nos prières. Tous les ex-votos montrent qu'au long des âges, eh bien, les gens ont été largement exaucés. Donc nous venons présenter notre cœur, même si nous n'avons pas d'intention particulière. Mais Marie, à l'image de Dieu, eh bien, connaît les intentions de notre cœur, elle connaît nos situations. Le plus beau qu'on puisse faire, c'est exactement comme devant le Saint-Sacrement, c'est d'apporter notre cœur, de l'ouvrir bien grand et de le laisser s'imbiber des parfums divins. Voilà la prière, la belle prière, mais elle exige cette ouverture du cœur. Elle exige que nous soyons comme les enfants, dans une volonté droite. Et ça suffit à Dieu pour nous sauver. Or la Vierge Marie n'est pas la médiatrice de toute grâce, comme certains auraient voulu le dire. Toute grâce, ça vient du Verbe. Mais il est vrai qu'elle a la capacité de multiplier les grâces de son Fils, parce qu'elle collabore avec lui. La mission de Marie, c'est d'abord de nous guider dans la foi. C'est incroyable le nombre de gens qui, sans passer par des structures de formation théologique ou spirituelle, grâce à Marie, eh bien, ont pu trouver d'eux-mêmes, et avec leur ange gardien, eh bien, une formation de base au credo, voire plus approfondie d'ailleurs. Rien qu'en récitant le chapelet, qui donnait des idées d'aller chercher tel livre, etc., etc., de lire la Bible, de lire des encycliques, que sais-je. Marie vraiment veille et forme les croyants. Elle les forme aussi de l'intérieur en nous donnant une intuition, un instinct très fort sur le vrai et le faux. On sent, c'est ça, la foi agit aussi beaucoup comme ça, de façon implicite. Implicitement, on reconnaît que telle doctrine est caduque, que telle spiritualité la marche sur une patte et pas sur deux. Et grâce à elle, on passe les illusions des doctrines trompeuses qui voudraient nous séduire par leur facilité. Donc, elle est le guide sur le chemin de la foi. Elle nous montre que l'humilité, la pureté du cœur, sont vraiment les deux grandes choses que Dieu attend de nous. Par une volonté droite, même si on est dans l'ignorance de Dieu et qu'on est malheureusement perdu dans les valeurs du monde, la volonté droite finit par triompher, Dieu finit par nous retrouver. Il faut chercher Dieu, mais en sachant que c'est Dieu qui nous trouve, que c'est Dieu qui nous cherche. Mais Dieu veut que nous fassions les premiers pas, nous aussi. Il veut que nous le recherchions sans cesse. Un pèlerinage, c'est ça. On part à la recherche de Dieu sans savoir comment on le trouvera et sous quelle forme. Peu importe. Ce désir-là est une offrande agréable au Seigneur. La Vierge Marie, la seconde chose dans sa mission, c'est de nous affermir dans les épreuves. Et ça, elle est consolatrice des affligés dans tous ses sanctuaires. Et la Vierge Marie nous apporte la paix par la prière, voire aussi, pourquoi pas, la résolution plus concrète de l'épreuve. Mais quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est d'avoir la force d'affronter les épreuves. C'est pas tellement de les annuler, de les supprimer, parce que la passion nous rappelle que les épreuves nous font aussi grandir. Mais nous avons besoin de force pour les traverser sans être détruits, sans être renversés nous-mêmes. Aussi, nous avons besoin d'être affermis pour avoir la force de combattre comme Marie a combattu, notamment au pied de la croix. Marie, comme l'Église, à l'instar de l'Église, c'était l'évangile de ce jour, nous introduit dans le royaume des cieux, elle a elle aussi les clés. Elle ne remplace pas l'Église, elle n'a jamais voulu remplacer l'Église, même de son vivant. Elle a été d'une discrétion inimaginable, la Vierge Marie, depuis la Pentecôte. Mais elle est la mémoire, elle est la référence, je dirais l'autorité de cœur, d'amour de l'Église. De l'Église primitive d'abord, à l'époque des apôtres, et de l'Église tout au long de son chemin dans l'histoire. Marie, comme Dieu, comme le Christ, va chercher la brebis égarée. C'est la visitation à sa cousine Élisabeth nous montre le zèle que Marie met pour aller assister sa vieille cousine qui a, dans son vieil âge, qui est enceinte. Et puis elle va voir le signe du Seigneur. Donc un zèle à la fois de charité fraternelle et un zèle pour contempler les merveilles de Dieu à travers sa cousine. Nous aussi, contemplons les merveilles de Dieu à travers les uns des autres, la vie des uns des autres, la vie des croyants. Et ainsi, nous pouvons nous éperonner pour aller plus avant dans la prière, pour aller plus avant dans le service mutuel. Notre-Dame du Cross, c'est une maison de la Vierge Marie. Tous les sanctuaires mariaux sont comme ça. C'est plus qu'une église. Et dans quel sens je dis ça? C'est une maison, un foyer, c'est Nazareth. Chaque sanctuaire marial, c'est Nazareth. Les églises, c'est le lieu d'habitation de la Sainte Trinité, sous la forme du Saint-Sacrement qui est là. Mais en plus, ici, il y a celle qui l'habite et qui en colore l'atmosphère, la Vierge Marie. C'est vraiment un lieu pour les familles. Et Notre-Dame du Cross est très adaptée pour ça, avec ses espaces verts bien entretenus. Donc, moi aussi, je veux remercier les membres de l'association des Amis Notre-Dame du Cross qui entretiennent la maison de la Vierge Marie tout au long de l'année. et qui ont besoin de bras, un peu plus jeunes d'ailleurs, pour le faire. Donc je profite pour lancer cet appel. Manifestez-vous aux membres de l'association, si vous êtes assez jeunes, pour aider ceux qui peinent un peu là, pour entretenir tout ça. Ça fait pas, vous n'êtes pas obligé, c'est pas mobilisant à l'extrême, hein, vous voyez, un petit coup de main de temps en temps. Marie aussi, bon, on a vu sa mission, plus fondamentalement, elle est dans la lutte. Parce que le monde n'est pas un paradis, nous le savons bien. C'est pourquoi nous avons tellement besoin de Marie dans nos vies. Le Christ, dans l'Évangile, ici, demande, selon les hommes, que disent les hommes de moi ? Qui suis-je ? Et vous-même, que pensez-vous de moi ? Qui suis-je ? Vous voyez, il oblige les apôtres à s'interroger. Trop souvent, on a une idée vague de Dieu, du Christ, c'est le cas de tous les hommes, même de nos contemporains. Il suffit de faire une petite enquête par-ci, par-là, on s'aperçoit très vite, dans les villages, dans les villes, partout, que ça va pas très loin, la connaissance du Christ, hein. Ouais, exactement comme les contemporains, là, comme dans cet évangile. C'était un homme de Dieu, un copain de Bouddha, un prophète. C'est quoi un prophète ? C'est quelqu'un qui connaît l'avenir, voilà. Mais c'est bien plus que ça, c'est un ami de Dieu, le prophète. C'est celui qui s'entretient avec le Seigneur, qui se tient comme Moïse en face de lui. C'est ce que les religieux ont tenté, les prêtres aussi ont tenté de s'approprier dans leur vocation et dans la réglementation de leur vocation. Et prophète, c'est bien plus que nécromancien, lire l'avenir dans un art de café ou en convoquant les esprits des morts. L'Immaculée, sa grande mission, et alors, de même, posons-nous la question, qui est exactement la Vierge Marie ? La mère de Jésus, bien sûr, c'est la mère de Jésus. Ça, c'est la première chose qu'on dit aux enfants, pour s'en rappeler. Mais être la mère de Jésus, être couronnée au ciel, reine des anges et reine des élus, c'est quelque chose de grand. Elle trouve place dans l'œuvre de Dieu, elle est dans l'Apocalypse, la Vierge Marie, sous la forme de la femme lumineuse et radieuse, qui donne naissance au chapitre 12, au Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu est emporté au ciel. La Vierge Marie aussi, nous le savons, nous l'avons célébrée, est emportée dans la gloire. Et pourtant, il y a une nuance. La femme, elle, dans l'Apocalypse, eh bien, n'est pas entraînée au ciel, elle est envoyée au désert. Le désert, c'est le symbole de la vie présente. C'est le symbole du lieu qui est préservé de la culture démoniaque du grand dragon qui représente le diable dans l'Apocalypse. Le dragon s'oppose à Dieu, veut étouffer l'idée de Dieu dans le monde, dans les âmes. Marie est envoyée dans le lieu où cette culture n'a pas lieu. Cette culture n'existe pas. Et donc le désert, c'est la culture opposée, c'est la culture chrétienne. C'est là qu'est envoyée la femme. Ça veut dire que la mission de la Vierge Marie, toute glorieuse qu'elle soit aujourd'hui, eh bien, c'est de rester avec nous d'une façon spéciale, à nos côtés, d'une façon simple, d'une façon quotidienne. L'Immaculée écrase la tête du serpent, hein, nous dit l'Évangile, et nous rappelle l'Écriture. Oui, c'était prophétisé, elle écrasera la tête du serpent, la mère du Sauveur. Eh bien, elle le fait dans nos vies quotidiennes. On n'imagine pas, quand on met Marie dans sa vie, combien le nombre des tentations et l'intensité des tentations baisse par rapport, eh bien, aux gens du monde, à ceux qui ne mettent pas Marie dans leur existence. Elle n'annule pas tout, mais elle rend gérable, en quelque sorte, le combat spirituel qui est rude. Parce que le monde, qu'est-ce que c'est ? C'est plein de mauvais conseillers invisibles qui poussent les hommes toujours, eh bien, à aller là où ils ne devraient pas aller. On voit maintenant que le monde tourne sur la tête par des lois les plus contradictoires. Quand on écoute les politiciens, on est presque un spectacle de guignol parfois. on a du mal à être sérieux et à les considérer comme des gens sérieux. Parce que, pourquoi ? Ben parce que la pensée humaine ne peut être finalisée que par la vérité, et la vérité étant Dieu. Or, si l'homme refuse, se détourne de Dieu, il se détourne aussi de la vérité. C'est un monde. Seuls des scientifiques vraiment bien concentrés sur la matière peuvent garder la vérité encore dans la ligne de mire. Mais dans le monde social, c'est bien plus difficile parce que c'est beaucoup plus subjectif. L'Immaculé donc trouve refuge au désert et nous accueille au désert, c'est ce que je voulais dire par là. Elle est le contraire de l'orgueil et de la colère qui habite continuellement le dragon qui est son ennemi dans l'Apocalypse. Voyez, pour reprendre des paroles de Nietzsche, Nietzsche disait, et il est le père, en quelque sorte, un des pères, un philosophe de la culture moderne, « Dieu est mort, le surhomme peut naître ». Voilà le message, grosso modo, de la doctrine nietzschéenne. Dieu est mort, descendre du cadavre divin peut naître le surhomme. C'est-à-dire que l'homme prend sur ses épaules son destin en main, il va définir la vérité, il va définir le bien et le mal. Là, récemment, il l'a défini en France avec la loi sur l'euthanasie. Il prend ses marques. C'est l'idéologie du surhomme qui gagne toujours davantage. Mais paradoxalement, plus cette idéologie triomphe, et plus les hommes, eux, ben, au lieu d'être sûrs, deviennent sous-hommes. Plus. Et ils le deviennent parce qu'ils deviennent les rouages d'une grande machine de toujours plus inhumaine. La solitude et le désespoir ne cessent de se multiplier dans la société. Seule la foi chrétienne peut vraiment redonner de la chaleur humaine à ce monde social. Alors communiquons-le, demandons à Marie le zèle de la visitation pour pouvoir communiquer cette ferveur d'en haut, cet amour que Dieu seul peut nous communiquer pour réchauffer le monde.